perkeleen tontot!
Yeah, salut à tous, bienvenue sur Bac FM 106.1 dans l'émission Check Me Load, votre émission métal. Pour aujourd'hui, une émission qu'avec des sorties du jour. En effet, ce vendredi 18 janvier, c'est une véritable avalanche de nouveautés qui nous tombe sur le coin du nez. Alors je vous ai fait une sélection donc pour cette émission. Il y a des choses qui vont passer à travers les mailles du filet, donc il se peut que je vous en ressorte quelques-unes d'ici les prochains vendredis. En tout cas, j'ai plein de choses pour vous, j'ai du trash, j'ai du death, j'ai du metal indus, donc ça va être très très varié dans cette émission Check Me Load, et j'espère que, encore une fois, vous allez trouver quelques petites pépites à rajouter à vos playlists, pourquoi pas à ajouter aux playlists du week-end. Donc, on va commencer sans tarder, hein, puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire, à vous proposer, et j'ai envie qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance avec du trash, avec un groupe qui existe depuis un bon moment. On va revenir un petit peu sur leur histoire, parce que c'est un petit peu les mal-aimés de la scène trash, alors que c'est un groupe qui a vraiment marqué les fans de cette scène, et c'est un groupe qui depuis quelques temps retrouve un certain amour de la part des festivals, puisqu'ils se produisent de plus en plus et sur des scènes de plus en plus grandes. Et c'est tant mieux, parce que c'est bien mérité. Ce groupe, c'est Flotsam et Jetsam. C'est leur nouvel album aujourd'hui, c'est The End of Chaos. Alors, Flotsam and Jetsam, on revient un petit peu sur l'histoire. C'est donc un groupe qui nous vient de Phoenix, dans l'Arizona, qui est fondé en 1981, sous l'impulsion du batteur Kelly David Smith, et qui sera rapidement rejoint par un certain Jason Newsted, avant que ce dernier soit recruté par Metallica pour remplacer Cliff Burton à la basse. Il y a un deuxième larron aussi qui vient les rejoindre assez vite, c'est le chanteur Eric Knudsen. C'est le dernier membre fondateur qui est encore présent à ce jour. Alors le groupe, il va d'abord être connu sous le nom de Paradox, après il va s'appeler Dreadlocks, il va ensuite s'appeler Dogs, et puis ils vont quand même finir par opter définitivement pour le nom de Flotsam and Jetsam, qu'on pourrait traduire un petit peu par les laisser pour compte, et c'est malheureusement une étiquette qui va leur coller à la peau, comme je vous le disais il y a quelques instants. Alors, le style du groupe, on est sur du thrash metal avec une touche de power metal et de metal progressif. Ils vont faire des débuts assez prometteurs avec deux albums marquants, hein, qui vont être considérés par beaucoup de fans de thrash comme des pièces maîtresses du genre. Il va y avoir Doomsday for the Deceiver, qui va être quand même le premier disque de l'histoire du magazine Kerrang à obtenir 6 étoiles. Et puis il va y avoir No Place for Disgrace, ces deux albums paraissent en 86. Mais il faut dire que malgré tout ça, Flotsam and Jetsam aura bien du mal à percer en dehors des milieux underground. Et c'est dans l'ombre de ses petits camarades du Big Four qu'il continuera sa carrière, malgré sa signature avec le label MCA, sur lequel sortira en 90 When the Storms Come Down. Alors avec ce troisième album, le combo espérait voir exploser sa renommée, mais sa production médiocre sera loin de faire l'unanimité, on sera finalement très loin du succès escompté. Alors face à ce relatif échec, Flotsam et Jetsam se laissera pas abattre, va même décider de revoir sa copie en effectuant quelques changements de style et puis d'écriture aussi, comme en atteste l'album Quattro qui paraît en 92, qui lui va connaître un succès bien plus important grâce notamment à une belle production et aussi à une promo bien plus efficace, il faut l'avouer. Depuis, le combo continue son petit bonhomme de chemin et même s'il commence tout juste à bénéficier de la renommée qu'il mériterait, eh bien les connaisseurs le savent, hein, Flotsam and Jetsam fait partie des références incontournables en matière de power thrash américain. Leur album éponyme paru en 2016 en est d'ailleurs une très belle preuve. Et c'est d'ailleurs une année 2019 plutôt chargée qui attend notre combo qui sort aujourd'hui son 13e album, un album qui va ensuite défendre un petit peu partout à travers la planète. Ce 13e opus, il s'appelle The End of Chaos. C'est un pur concentré de trash à l'ancienne pour le style, mais résolument moderne en ce qui concerne le son, grâce à une production aux petits oignons qui est signée du Danois Jacob Hansen. Alors de là à dire que nos vétérans ont retrouvé une nouvelle jeunesse, il n'y a qu'un pas. The End of Chaos, c'est un album percutant, énergique, puissant. Le combo de Phoenix maîtrise son sujet sur le bout des doigts et aligne les titres ravageurs de la première à la dernière note. C'est une très belle revanche pour ce groupe trop souvent laissé pour compte qui sillonnera donc bientôt les plus grands festivals. On écoute Flotsam and Jetsam avec le titre Demolition Man, extrait de l'album The End of Chaos. Le groupe américain Flotsam and Jetsam sur Back FM, groupe de trash pionnier un peu, mais qui n'a jamais connu le succès escompté. Les revoilà avec The End of Chaos, leur 13e album, ça sort aujourd'hui et vous venez d'écouter le titre Demolition Man. Très très bon disque que je vous conseille si vous êtes amateur de bon trash traditionnel avec une vision un petit peu moderne au niveau du son. Ça le fait tout à fait. On change de style, on change de pays, on va maintenant en Allemagne avec le groupe Oomph qui sort aujourd'hui également son nouvel album, un album qui s'intitule Ritual. Alors Oomph, c'est qui ? C'est un groupe qui nous vient de Wolfsburg, qui a été fondé en 1989, et c'est dans un festival rock que se rencontrent les deux fondateurs du groupe, donc le chanteur-batteur Derogoy et puis le guitariste Andreas Kraps, qui seront ensuite rapidement rejoints par le guitariste-bassiste Robert Flux. C'est d'ailleurs un line-up qui n'a pas changé depuis 30 ans, et c'est assez rare pour le souligner. Alors, Oomph, c'est quoi ? Eh bien, c'est du metal indus, mais rattaché au mouvement que l'on appelle la New Dutch Art, qui se caractérise par son mélange de guitare métal, de son électro et de rythmique martiale, et dont la figure de proue n'est autre que Rammstein. Rammstein qui n'a pourtant vu le jour que quelques années après Oomph. Alors c'est vrai qu'on entend souvent dire que Oomph a copié Rammstein, c'est un peu énorme puisqu'ils étaient là avant. Donc voilà, il est important de rétablir la vérité. Donc Oomph, c'est un groupe qui chante en anglais et en allemand. C'est un groupe qui va aussi énormément peiner à trouver son public, qui va connaître des débuts assez laborieux, et il faudra bien attendre 4 albums pour que le groupe arrive à forger son identité et arrive aussi à attirer l'attention de la major Virgin, qui en cette fin des années 90 décide de se glisser dans la brèche immense ouverte par Rammstein. Alors à partir de ce moment-là, tout s'accélère pour Oomph, qui va sortir ses premiers succès avec les albums Unrein en 98, Plastic en 99, Ego en 2000. La consécration, elle est plus très loin, elle arrive avec l'album suivant qui s'appelle War 8 Odor Pflicht, que j'ai certainement écorché, qui sort en 2004 et qui sera certifié disque de platine en Allemagne. Composé à ce jour de 13 albums studio, la discographie de Oomph compte quelques belles pièces, comme par exemple Monster paru en 2008 ou encore 25 paru en 2015. Et donc aujourd'hui le trio allemand sort Ritual, son 13e album qui devrait faire le bonheur je pense des fans de la première heure, puisque le groupe revient un peu au son qui a fait sa réputation à la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2000. Avec Ritual, Oomph nous balance une déferlante de tubes en puissance bien catchy avec toujours ses influences gothiques qui sont depuis toujours la marque de fabrique du groupe. Il y a bien sûr ses rythmiques martiales, brutales, cadencées, typiques de cette scène New Dutch Art, qui, additionné à la voix de Derogoy, à la fois glaciale et rugueuse, eh bien, nous plonge dans un univers sombre, parfois presque mélancolique, mais jamais dénué de mélodie. Avec Ritual, Oomph nous propose en quelque sorte un pont entre le passé et le présent. Alors je le disais, ça plaira aux fans les plus anciens, mais ça plaira aussi à ceux qui ont découvert le groupe avec ses derniers albums. À mon avis, on tient là une des futures pièces incontournables de la discographie des Allemands. On écoute donc Oomph avec le titre « Kein Liebeslied ».
Dies
Et non, ça n'était pas Rammstein sur Bike FM, je n'ai pas encore d'extrait de leur nouvel album, c'était bien Oomph, leurs compatriotes allemands, ceux qui ont d'ailleurs été pionniers avant Rammstein de cette scène metal indus que Rammstein a popularisé à travers la planète. Oomph qui sort aujourd'hui un nouvel album intitulé Ritual, Oomph qui fête cette année ses 30 ans et c'est leur 13e album. On vient d'écouter le titre Kein Liebeslied. Voilà pour le groupe allemand Oomph. On retourne aux États-Unis, tiens, mais on va pas revenir sur une scène trash, on va revenir maintenant sur plutôt du doom, avec une formation que j'aime énormément, qui sort également aujourd'hui son nouvel album. Il s'agit de A Pale Horse Named Death. Alors c'est un groupe qui nous vient de Brooklyn, qui s'est formé en 2011, qui a été créé par Sal Abruscato, qui est connu pour avoir été le batteur de Typo Negative de la formation du groupe en 89 jusqu'en 94, et qui a aussi été le batteur de Life of Agony de 1993 à 2017. Donc Typo et Life of Agony, c'est quand même deux fleurons de la scène métal de Brooklyn. Alors à noter que dans ce nouveau projet qui est A Pale Horse Named Death, Sal Abruscato a posé les baguettes, il est désormais au micro et à la guitare, et donc le poste de batteur, eh bien, il a été confié à Johnny Kelly, qui lui avait succédé dans Typo Negative, donc la boucle est bouclée. Pour ce qui est du style de A Pale Horse Named Death, on est sur un mélange de doom et de metal gothique. Le groupe va sortir son premier album l'année même de sa formation, en 2011. Cet album s'intitule And Hell Will Follow Me, et on y découvre eh bien une musique à la fois justement heavy, doom, gothique, teintée aussi de quelques sonorités grunge, un petit peu comme si Typo Negative avait fusionné avec Alice in Chains. Le groupe va recevoir un excellent accueil de la part des médias, qui sont visiblement séduits par le son à la fois dark et groovy de la formation. Et si cette première production servait de fondation au projet, son successeur, qui est Lay My Soul to Waste, qui sort en 2013, va s'avérer beaucoup plus puissant, beaucoup plus abouti, et malgré tout, toujours avec le fantôme de Peter Steele qui plane tout au long du disque. Un fantôme qui continue de hanter pas mal When the World Becomes Undone, le troisième opus des New Yorkais, nouvel opus qui sort aujourd'hui, dont le son propre à cette scène issue de Brooklyn est omniprésent, mais qui n'empêche en rien le combo à continuer à construire son identité, à forger son univers à travers un album que je trouve qui monte d'un cran par rapport au deuxième. On retrouve encore un peu plus de puissance, c'est un peu plus abouti. Avec When the World Becomes Undone, on est vraiment face à une pépite doom metal qui, avec ses teintes post-grunge, gothique, offre vraiment des morceaux de toute beauté. C'est lourd, c'est planant, c'est hypnotisant. Et on y revient encore un peu comme l'étaient les chansons de Typo Negative. Donc ce qu'on peut dire, c'est que A Pale Horse Named Death, c'est définitivement et sans conteste le digne successeur de Typo. On écoute tout de suite le morceau titre When the World Becomes Undone. C'est tout de suite, c'est sur Bike FM. We'll be right back. A Pale Horse Named Days sur Back FM dans l'émission Check Meload. Leur nouvel album sort aujourd'hui, il s'appelle When the World Becomes Undone. On vient d'écouter le morceau du même nom, donc When the World Becomes Undone. Je rappelle que A Pale Horse Named Days, qui aime bien les très longs titres, c'est le projet de Sal Abruscato, ancien batteur de Typo Négative, ancien batteur de Life of Agony. Alors ça s'entend, surtout en ce qui concerne Typo. Et moi qui étais très très triste quand Peter Steele est décédé, parce que ça marque la fin du groupe, je suis ravie qu'il continue à vivre un petit peu à travers les productions de A Pale Horse Named Death, dont je ne peux que vous conseiller les trois albums. On va rester aux États-Unis, on va y rester encore pour deux morceaux, et on va aller précisément en Californie retrouver un des poids lourds de la scène new metal des années 2000. C'est Papa Roach qui sort aujourd'hui son nouvel album, un album qui s'appelle Who Do You Trust. Alors Papa Roach, c'est un groupe qui vient de Vacaville, ça se situe à mi-chemin entre Sacramento et San Francisco. C'est un groupe qui est créé en 93 sous l'impulsion notamment du chanteur Jacoby Shaddix et du guitariste Jerry Horton. Alors je vous le disais, hein, avec Papa Roach, on est au départ sur du pur new metal comme on en faisait à l'époque, qui va évoluer ensuite plus vers du métal alternatif, encore que l'un va rarement sans l'autre. Le groupe sort son premier album en 97, mais c'est 3 ans plus tard, en 2000, avec la sortie de In Faced, que Papa Roach voit littéralement sa popularité exploser, propulsé par le succès de l'incontournable single Last Resort, qui est son plus gros tube, après avoir connu un succès interplanétaire avec ce fameux In Faced, dont il va s'écouler plus de 9 millions d'exemplaires à travers le monde. Le combo va enchaîner avec les albums d'abord Love Hate Tragedy en 2012, Get Away With Murder en 2004, qui malgré des ventes gigantesques vont s'avérer quand même bien décevants. Les disques qui vont suivre vont laisser, eux, un souvenir encore moins impérissable, et Papa Roach va connaître même un certain passage à vide, comme beaucoup de formations issues de la vague new metal, pendant quelques années. Il va falloir attendre 2012 pour avoir la bonne surprise de les voir revenir avec l'album The Connection, qui va être largement salué par la critique mais aussi par les fans, et qui va permettre au groupe de réellement revenir sur le devant de la scène, un retour qui va se confirmer avec les albums Fear paru en 2015 et Crooked Teeth paru en 2017. Donc aujourd'hui, le combo de Jacoby Shaddix sort son 10e album, qui possède tout le potentiel nécessaire pour autant séduire que désarçonner les fans du groupe. Alors je vais m'expliquer, hein. Who Do You Trust, c'est un album qui est extrêmement varié, puisque au fil des chansons, on va voguer entre pop, hip-hop, électro, metal alterno, punk hardcore, un véritable patchwork musical qui aurait pu virer sérieusement au gloobie-boulga sans le talent et l'expérience de nos Californiens. Alors au final, s'il est quand même assez déstructuré, l'album est quand même assez efficace, il contient même quelques futurs titres incontournables. Franchement, on passe un très bon moment en l'écoutant, et je pense que ce Who Do You Trust promet déjà des très très belles prestations en live. Moi perso, je valide le choix du groupe, hein, de partir un peu dans tous les sens. Maintenant, à vous de vous faire votre avis. On va écouter un morceau qui s'appelle Renegade Music, c'est un des plus énervés du disque. D'ailleurs, je me demande si Papa Roach ferait pas un petit clin d'œil à Rage Against the Machine à travers ce morceau.
Contain the neighbors watching, but no one moves. They live by rules, they give no options. They don't prevail, they tell no tales. A dead man walking to replicate is playing safe, and nothing changes. But nothing changes until the people get loud. So get down! Everybody, everybody get down! Take it to another level right now. No resolution. Stand up, this is Renegade Music. Round. Everybody, everybody get down. Take back your life right now. Are you ready for some new shit? Stand up, this is Renegade Music. Renegade Music.
C'était Papa Roach à l'instant avec un morceau très à la Rage Against the Machine, un morceau qui s'appelle Renegade Music. C'est un extrait de leur dernier album qui paraît aujourd'hui, qui s'appelle Who Do You Trust, et donc un album sur lequel Papa Roach part dans tous les sens, va d'un style à l'autre, mais c'est déstructuré comme je le disais, mais moi j'ai bien aimé, donc eh bien je vous le conseille, et ce morceau là c'est vraiment un des meilleurs de l'album Papa Roach, donc à découvrir à partir d'aujourd'hui. On va rester en Californie, on va s'intéresser maintenant à un groupe qui fait en ce moment frémir le monde du métal américain. C'est un groupe qui crée beaucoup de buzz depuis quelques temps. Il s'appelle Fever 333 et leur nouvel album paraît, enfin leur premier album paraît aujourd'hui, un album qui s'appelle Straight in Numbers. Alors Fever 333, c'est un groupe qui nous vient de Inglewood, ça se situe dans le comté de Los Angeles, qui est tout récent, qui a été formé en 2017. C'est un trio qui est composé de Jason Aylon Butler, qui est connu en tant que chanteur du groupe metalcore Lightlive, qui est composé également de Stephen Harrison, qui est le guitariste du groupe metalcore The Chariot, et Darek Improta, qui est également batteur d'un groupe de post-rock qui s'appelle Night Versus. On est donc là face à ce qu'on appelle un super groupe. Pour ce qui est du style, on est sur du rapcore, un rapcore qui se veut explicitement en faveur d'une cause révolutionnaire, servi avec agressivité à coups de punk, de hip-hop, de trash, et on peut dire que l'activisme de Fever 333 n'est égalé que par l'énergie brutale de leur musique et de leurs paroles. Côté discographie, Fever 333 avait révélé son premier EP Made in America début 2018. Il y avait eu d'ailleurs un des titres, le titre éponyme, qui avait fait l'objet d'un remix avec le rappeur Vic Mensa et avec Travis Barker de Blink-182, pour ceux qui connaissent un peu. Et aujourd'hui, eh bien, le groupe est de retour cette fois-ci avec son premier album, donc Straight in Numbers, qui a été produit justement par Travis Barker et sur lequel le trio réaffirme sa ferme intention d'en découdre avec les injustices. Avec ce premier album, Fever 333 offre la bande-son parfaite pour aller manifester les samedis en ce moment, mais surtout le groupe promet des prestations incendiaires pour la tournée à venir. D'ailleurs, les fans de Bring Me The Horizon, dont on parlera la semaine prochaine, qui les ont découverts fin novembre au Zénith de Paris, peuvent en témoigner. Apparemment, les Californiens ont conquis aussi bien le public que les médias présents. Les médias pour qui Fever 333 sera une des sensations de cette année 2019. On écoute donc un extrait du premier album Straight in Numbers avec le titre Burn It.
When the 5-0 arrive, look alive. Everybody look alive, look alive.
Fever 333, nouvelle sensation américaine qui sort aujourd'hui son premier album Straight in Numbers. Vous venez d'écouter leur titre Burn It sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Me Load. Un groupe un petit peu à la croisée entre Rage Against the Machine et Linkin Park. Alors Rage Against the Machine surtout pour la partie musique, notamment les guitares qui rappellent quand même pas mal Tom Morello. Et puis Linkin Park pour le chant. Moi je trouve que la voix du chanteur rappelle quand même un certain Chester Bennington. En tout cas, voilà, c'est fougueux, c'est furieux et ça fait du bien. Fever 333, ça s'écrit Fever 333 si jamais vous cherchez l'album qui paraît aujourd'hui. On va rester encore aux États-Unis le temps d'un morceau, mais on va quitter la Californie, on va aller vers l'état de New York, on va se rendre à Buffalo où on retrouve Malevolent Creation. À Buffalo, on va pas y rester puisque vous allez voir après on part en Floride, mais je vais vous expliquer tout ça. En tout cas, Malevolent Creation sort aujourd'hui son nouvel album qui s'appelle The 13th Beast. Alors donc Malevolent Creation, je vous le disais, c'est un groupe qui voit le jour à Buffalo en 1987. Il est notamment créé par le guitariste Phil Fatchiana, qui est désormais le seul membre fondateur encore présent, puisque le chanteur Brent Hoffman, qui était là également à l'époque depuis le début, donc est décédé en juillet dernier d'un cancer. Et comme il était malade depuis déjà un moment, il avait été remplacé dès 2017 par Lee Wollenschlager, qui est également guitariste. Cette même année, en 2017, a vu aussi l'arrivée de deux autres membres, le bassiste John Grips et le batteur Phil Cancilla. Donc, Malevolent Creation, c'est du death metal. D'ailleurs, si le groupe est originaire de Buffalo, comme les Cannibal Corpse, il s'est rapidement installé en Floride, comme les Cannibal Corpse. La Floride qui est en quelque sorte le berceau de la scène death américaine. C'est là, par exemple, que se trouve le mythique studio Morrisound. Rapidement après son arrivée en Floride, Malevolent Creation signe avec un prestigieux label, avec Roadrunner Records. Ils vont sortir en 91 un premier album qui s'intitule The Ten Commandments, qui a justement été enregistré au studio Morrisound sous la houlette de Scott Burns. C'est une pointure de la production en matière de death metal et de thrash, Scott Burns. L'année suivante, le combo va enchaîner avec Retribution, qui est enregistré au même endroit, avec le même producteur, qui est dans la droite lignée de son prédécesseur, et qui permet à Malevolent Creation de commencer à s'imposer un peu au sein de la scène death. Pour son troisième album qui s'appelle Stillborn, qui arrive en 93, le groupe va faire le mauvais choix d'appeler un autre producteur pour mettre en boîte son album. Le son du disque est de piètre qualité. Ça va marquer aussi la fin de la collaboration entre Malevolent Creation et Roadrunner. Et les albums suivants, ils vont être d'une qualité assez inégale. Il va falloir quand même attendre la signature du groupe avec Nuclear Blast pour retrouver tout simplement le potentiel de leur début de carrière. On trouve d'ailleurs parmi leurs dernières productions quelques jolies pièces, comme par exemple l'album Invidious Dominion qui était sorti en 2010. Il y a eu aussi l'excellent Dead Man's Pass qui est sorti en 2015. Et en même temps, il a été produit par Dan Suano, donc encore un grand nom. C'est aussi l'album qui marquait l'arrivée du combo sur un nouveau label, sur Century Media. Alors aujourd'hui, nos vétérans de la scène Death Riken sortent leur 13e album qui porte le juste titre de The 13th Beast, qui est en quelque sorte le prolongement de Dead Man's Pass, tout en intégrant la férocité d'albums un petit peu plus anciens. Du coup, The 13th Beast, dont le son est une nouvelle fois signé Dan Suano, impressionne par son attaque death metal qui est variée mais qui est sans compromis, qui associe assez parfaitement intensité, vitesse, agression implacable, riff mémorable et break accrocheur. On sent une très belle cohérence au sein de ce nouveau line-up, qui apporte d'ailleurs sa petite touche de fraîcheur à la musique du groupe. Alors les fans de death pur et dur ne pourront qu'apprécier ce nouveau méfait de Malevolent Creation, qui est bien évidemment dédié à la mémoire de Brent Hoffman. On en écoute un extrait, voici le titre Decimated. Oh, Malvolent Creation à l'instant sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Melode. Leur nouvel album paraît aujourd'hui, c'est The 13th Beast, et vous avez pu le constater, le nouveau chanteur est très très bon. On est sur du très bon death metal, voilà, hein, c'est pareil, groupe un peu vétéran, mais groupe qu'on a toujours sous le pied et qui a toujours une très très bonne patate. Donc voilà, album que je vous conseille, ainsi que son prédécesseur qui s'appelait Dead Man's Pass, qui était paru en 2015, produit tous les deux par monsieur Dan Schwano. Voilà, on en reste ici pour la partie death. On va écouter un petit peu de death mélodique après, mais on va faire une petite parenthèse métal progressif. Alors je sais que c'est un style qui plaît pas à tout le monde, voilà, il y a ceux qui adorent, il y a aussi ceux qui détestent, qui trouvent ça un peu trop barré, un peu trop complexe, mais le groupe est très bon, c'est un groupe français en plus, qui s'appelle Kadinja, et qui sort aujourd'hui son deuxième album. Un album qui s'intitule Super 90 si on le dit en français, ou Super 90 si on le dit en anglais. Donc Kadinja, c'est un groupe qui a vu le jour à Paris en 2013. Actuellement, il se compose de Philippe Charny-Devendre au chant, de Pierre Danel et Quentin Godet à la guitare, de Steve Tréguira à la basse et Morgane Berthet à la batterie. Morgane Berthet qui possède un CV assez impressionnant, qui a fait pas mal de remplacements ou de studios ou de scènes d'ailleurs, mais qui est surtout le batteur de Mirat, l'excellent combo de métal tunisien. Alors avec Kadinja, on est sur du djent, donc ben voilà, du djent, c'est du métal progressif, du métal très technique et des fois très complexe. Le groupe avait sorti il y a un an son premier album qui s'appelait Ascendancy, qui avait été accueilli par les fans comme une bouffée d'air frais, hein, dans ce monde du métal complexe, un monde qui en a parfois grand besoin. Et aujourd'hui, Kadinja est donc de retour avec Super 90, un deuxième album qui met davantage l'accent sur le conceptualisme et à travers lequel on constate que le groupe a franchi un cap en matière de technicité, mais également en matière de maturité. C'est plus rock, plus organique, plus émotionnel. C'est un album ambitieux qui est maîtrisé vraiment de bout en bout. C'est violent aussi, brutal, technique, complexe, et il y a une espèce de fulgurance quasi surnaturelle qui, je pense, saura captiver l'auditoire et pas mal subjuguer nos sens. Alors à condition, bien sûr, de pas être hermétique à tout ce mouvement progressif. Bon, de toute façon, il est quasiment impossible d'apprécier pleinement ce nouvel album de Kadinja au bout d'une seule écoute, hein. C'est vraiment au fur et à mesure que ces nuances vont se révéler à vous. Mais quand même, pour vous donner une idée, j'avais envie qu'on écoute un titre, et j'ai choisi Empire, donc de Kadinja. Kadinja sur Back FM. Le groupe de gent metal parisien Kadinja qui sort aujourd'hui son nouvel album Super 90. Un extrait qu'on vient d'écouter qui s'appelle Empire. Voilà, pour les amateurs de bon métal progressif, si vous aimez Meshuggah, franchement ça devrait vous plaire. Si vous aimez aussi des groupes comme Between the Buried and Me, il y a moyen que ça vous plaise. Donc voilà, c'est à découvrir absolument. En plus c'est français, il y a un gros potentiel. Le groupe est signé sur le label iRising Records, qui est une filiale de Nuclear Blast. Donc voilà, c'est que le groupe apporte vraiment quelque chose et qu'il y a moyen qu'il fasse une belle carrière. Et tout ça, bah, c'est encore sorti aujourd'hui, ce vendredi 18 janvier. Il y a eu tellement de sorties aujourd'hui que même dans la rubrique Sortez Cover, je vais vous proposer une nouveauté qui est sortie ce vendredi 18 janvier. Il s'agit d'un extrait de l'album Covered in Blood du groupe Arch Enemy, qui, vous l'aurez compris, nous sort aujourd'hui un groupe de reprises, de covers. Un album qui réunit toutes les reprises enregistrées par le combo de Death Melodic suédois de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Et elles sont nombreuses, hein, parce que le disque contient pas moins de 24 morceaux, dont l'excellente version de Breaking the Law, Judas Priest, qu'on avait écouté il y a quelques mois dans cette même émission, dans cette même rubrique. Alors, sinon, pour ce qui est des autres titres, ils ont puisé dans pas mal de choses. On trouve des titres pris dans le répertoire de Scorpion, Megadeth, Iron Maiden, beaucoup de groupes de punk aussi. Et puis Tears for Fears, dont Arch Enemy propose une relecture absolument magnifique de leur tube Shout. À noter, avant de s'intéresser au morceau en lui-même, que Covered in Blood propose des titres enregistrés avec chacun des trois vocalistes qu'a connu le groupe. Il y a donc 11 morceaux qui sont interprétés par Alyssa Whiteglaze, l'actuelle frontwoman du combo. Il y a 9 morceaux qui sont interprétés par Angela Gossow, la frontwoman avec laquelle le combo s'est fait connaître. Et puis il y a quand même 4 morceaux qui sont interprétés par Johan Liva, qui fut le premier chanteur et seul homme à chanter dans la formation. Mais intéressons-nous à la chanson Shot. Alors, elle est composée et interprétée par le groupe de New Wave britannique Tears for Fears, qui voit le jour en 81, sous l'impulsion d'un duo composé de Roland Orzabal et Kurt Smith. Shot paraît le 23 novembre 1984 en 45 tours. Il s'agit du deuxième single extrait de l'album Songs from the Big Chair, qui va arriver dans les bacs en février 85. Et Shot va être le premier succès interplanétaire de Tears for Fears. La chanson va s'installer au sommet des charts de nombreux pays et le groupe va signer un des plus gros succès commercial de l'année 1985. Alors c'est une chanson qui est construite sur seulement 3 accords, 2 strophes. C'est une chanson qui est redoutablement efficace grâce à cette mélodie qui se répète, qui est assez lancinante et qui reste ensuite eh bien longuement inscrite dans le crâne de celui qui l'écoute. L'autre particularité de Shot, mais c'est en fait assez souvent le cas dans les morceaux de New Wave, c'est qu'elle se prête impeccablement à une interprétation en version métal. D'ailleurs en 94, le groupe Superation en avait fait une reprise dans une version Doom Death que je ne peux que vous conseiller, mais c'est la version Death mélodique d'Arch Enemy qu'on va écouter, qui par rapport à la version un peu dépressive de Superation est bien catchy, bien patate. Encore une fois, Alyssa Whiteglaze fait une prestation vocale impériale. On va donc écouter Shout de Tears for Fears, revu et corrigé par Arch Enemy. C'est un morceau disponible sur la compilation Covered in Blood qui paraît aujourd'hui. Avant d'écouter, eh bien, je vais vous souhaiter un excellent week-end, une très bonne semaine. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles aventures métal. Salut à tous!